Bonjour à tous et bienvenue à l'EPI ce matin. Heureux de vous rencontrer, de vous saluer. Alors, nous sommes aujourd'hui dans cette période, dans ce qu'on appelle la période de l'Avent. Le mot Avent, c'est un mot qui veut dire arrivée, avènement. Et les chrétiens célèbrent la venue de Jésus-Christ, venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Et lorsqu'on réfléchit bien en arrière-plan de la venue de Christ, il y a toute une intention de Dieu dans un plan de salut pour toute l'humanité. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis elle dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et quand on réfléchit à tout cela, eh bien, on s'aperçoit que tout ce que Dieu accomplit, il réfléchit, est pensé, planifié à l'avance. Il ne laisse rien au hasard, tout est prévu, tout est coordonné. C'est remarquable. Notre Dieu est unique. Et son intention pour nous est unique, c'est une intention bienveillante. Le psaume 33, 11 dira « Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, ses projets d'âge en âge. » Et vous connaissez ce passage de Jérémie, peut-être pour certains, lecteurs de la Bible, Jérémie 29, 11, un passage auquel il s'adresse au peuple d'Israël en disant « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir fait d'espérance. » Et dans un monde sans dessus-dessous, il est bon de s'accrocher à cette espérance vivante. Notre Dieu règne encore, il est sur son trône, il règne et il s'intéresse à nos vies et il est de notre côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a de bonnes intentions envers son peuple, de bonnes intentions, des intentions bienveillantes. C'est ce que dit d'ailleurs ce premier passage dans Éphésiens au chapitre 1er et au verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. C'est la version second, 21. « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » En théologie, le mot mystère, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu révèle. Il le fait. Mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. C'est ce qu'il a fait en envoyant Jésus. Galates 4 dira, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. Dieu ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quoi. Sa façon de penser et sa façon d'agir révèlent une intention. Ce qu'il fait a un sens et un but précis. C'est donc que Dieu agit de manière intentionnelle. Et dans ce sens, il nous appelle également à vivre une vie de manière intentionnelle. Notre vie a besoin de sens, notre vie a besoin d'un but, notre vie a besoin d'un cap, on a besoin de direction. Et le Seigneur veut nous aider à cela. Vivre une vie de manière intentionnelle, c'est entrer dans une démarche choisie, volontaire, voulue, déterminée, décidée, à la manière de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Éphésiens chapitre 5, verset 15, c'est un passage qui illustre un petit peu ce que je suis en train de vous dire, et dans lequel l'apôtre Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, « Faites donc bien attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, c'est-à-dire ne gaspillez pas votre temps. Car les jours sont mauvais. » Ils étaient mauvais du temps de l'apôtre Paul, et je crois bien qu'ils sont mauvais aujourd'hui. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et dans ce même chapitre 5, au verset premier, l'apôtre dira « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Donc, nous sommes interpellés et appelés à vivre de la même manière que Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, et si nous voulons être reconnus comme ses enfants, il nous faut vivre, agir, penser, croire, nous conduire, nous comporter comme notre Père céleste. Dans mon intention, ce n'est pas seulement d'être un bon chrétien, mais c'est d'être le meilleur chrétien possible. Mon intention n'est pas seulement d'être un bon voisin, mais d'être le meilleur voisin possible. Pas seulement un bon mari, mais le meilleur mari possible, le meilleur père possible, le meilleur grand-père possible. Nous sommes invités donc à avancer, à progresser, à grandir, mais la croissance spirituelle, la croissance en maturité chrétienne, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose que l'on choisit, c'est quelque chose que l'on décide pour dire oui Seigneur, je veux te suivre, je veux me comporter comme toi, me conduire et je veux grandir dans tes voies. Alors comment vivre de manière intentionnelle? C'est bien là la question. Comment vivre de manière intentionnelle? Et la première chose, c'est de décider. C'est de décider de vivre à la manière du Seigneur. Décider, comme dirait notre petite fille Laure, il faut décider de décider. Et quand elle vous dit cela, vous comprenez tout de suite, il faut être sérieux. Il faut décider de décider. Alors, au fond, il faut en avoir la ferme intention. Je grandirai si j'ai envie de grandir. Vous savez, frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule vie. Et la question, c'est que voulons-nous en faire? Comment allons-nous vivre? Pour qui voulons-nous vivre? Comment voulons-nous nous investir? Et tous les anciens vous le diront, la vie passe très, très vite. La vie est très courte. N'est-ce pas, les anciens? Vous êtes avec moi, ça passe très vite. Et vous retournez, vous dites, « Oh, avec mon épouse, on vient de fêter nos 40 ans de mariage. Ça passe très vite. Ça passe très vite. » Alors, il y a beaucoup d'idées fausses à propos de la croissance spirituelle, à propos de la maturité chrétienne. Les uns pensent que nous grandissons automatiquement après notre conversion. C'est tout à fait naturel. Et l'apôtre Paul dira aux chrétiens, « Mais vous devriez être des maîtres et vous en êtes encore réduits à boire du petit lait. » Autrement dit, vous êtes des bébés spirituels, vous êtes des nourrissons, alors que vous devriez déjà être des maîtres en matière de vie chrétienne. D'autres pensent que la maturité chrétienne, elle s'acquiert avec le temps. Mais nous savons bien qu'on peut vieillir sans grandir. C'est toujours un peu triste, après 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, de voir ici ou là, dans la vie des uns ou des autres, de la susceptibilité, des petites choses qui devraient déjà, depuis longtemps, être réglées. D'autres pensent qu'il suffit de participer à des études bibliques pour grandir. Mais vous savez aussi bien que moi, que les études bibliques, ça peut remplir la tête, on peut grossir sans jamais grandir. Or, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas qu'on grossisse, mais c'est que l'on grandisse, qu'on soit de meilleurs chrétiens, de meilleurs disciples, de meilleures épouses, de meilleurs époux, de meilleurs parents ou grands-parents, de meilleurs citoyens. D'autres disent, bien, il suffit de prier. Il suffit de lire sa Bible. Bien sûr, toutes ces choses peuvent contribuer à notre croissance. Mais si vous n'avez pas l'intention de grandir, vous ne grandirez pas. C'est aussi simple que ça. Si je prends l'exemple de la Bible, par exemple, on peut la lire. Mais la Bible, et en fait, Dieu nous parle. Ce n'est pas pour nous informer, c'est pour nous transformer. C'est différent. C'est différent. Dieu nous parle et la parole est là, non pas seulement pour nous informer, il y a de très belles choses dans la Bible, mais il parle en vue de notre transformation. Et la vie chrétienne, c'est une question de transformation, une question de changement, une question d'être renouvelé dans sa façon de vivre, dans sa manière de penser. C'est ce que la Bible appelle aussi la repentance. C'est des changements d'attitude, de comportement, de conduite, d'état d'esprit et de mentalité. C'est ce que Dieu opère par le Saint-Esprit sur la base de notre décision. Si on est avec lui, comme on dit aujourd'hui, on est proactif, c'est-à-dire qu'on participe, on collabore avec le Seigneur, eh bien, il opère en nous une œuvre de transformation. Donc, décidez. Décidez. Puisqu'on parle de la Bible et de la lecture de la Bible, je vous ai parlé il y a quelques semaines du fait d'avoir sa chaise, bien son canapé ou son fauteuil. Je ne sais pas comment ça va en ce moment. Est-ce que vous avez pris du temps? Est-ce que ça se passe bien? Où est-ce que vous en êtes avec votre chaise? Quelqu'un m'a envoyé un mail l'autre jour en me disant, moi, ma chaise, c'est quand je sors dans la nature, je suis avec le Seigneur, et là, je prie, je lui parle, je réfléchis, et le Seigneur me visite. C'est très bien, c'est très bien. L'essentiel, ce n'est pas ni l'endroit, ni le lieu, ni si c'est une chaise ou un canapé. Une femme de pasteur l'autre jour m'a dit, mais quand je lui expliquais ce qu'on allait faire, mettre des chaises sur l'estrade, elle m'a dit, vous devriez mettre aussi un lit sur l'estrade, parce que moi, je lis ma Bible dans le lit. Peu importe, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un moment quotidien avec le Seigneur. On peut grandir en venant au culte, on est stimulé dans notre foi, en venant dans des groupes de maison, et je vous encourage à y aller. On peut grandir dans notre foi en participant à ce que font des équipes, et il y en a des dizaines à l'EPI, en s'investissant, en servant, en travaillant en équipe. Ça nous rapproche les uns des autres et ça nous fait grandir. Mais rien ne vaut un temps personnel avec le Seigneur quotidien. Un quart d'heure, par exemple, par jour. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la qualité de la relation avec le Seigneur. Pour moi, c'est la meilleure façon de grandir. Il y en a plein de façons, mais ça, c'est une façon vraiment de grandir. On intègre la parole de Dieu, puis on dit, Seigneur, voilà, aide-moi à mettre en pratique. Et c'est la pratique qui est importante. Donc, ayez une lecture suivie, ne papillonnez pas ici ou là, c'est la période des calendriers en ce moment. C'est une bonne base, une bonne référence, avec un verset peut-être par jour, avec des textes suivis. Et avoir peut-être un chapitre, peut-être un livre suivi, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Puis faites peut-être comme je fais, munissez-vous d'un carnet de notes. Et là, vous notez tout ce que Dieu vous dit. Parce que les paroles sont bonnes, mais les écrits restent. Et donc, vous notez ce que Dieu vous dit. Et vous priez sur ces choses. Et vous laissez le Seigneur vous imprégner. Et cela peut changer votre vie. C'est de cela dont il est question. Vivre de manière intentionnelle, c'est décider d'arrêter de vivoter. C'est aussi sortir d'une vie routinière, égocentrique, égoïste, et me mettre à la disposition du Seigneur pour être en accord dans le prolongement de son intention à lui, de sa volonté à lui. C'est aussi arrêter de fonctionner pour commencer à accomplir quelque chose. Il y a une grande différence entre fonctionner et accomplir. Par exemple, dans les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur est en train de parler à Jean, qui est en train d'écrire ses lettres pour les églises de l'Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il est en train d'écrire et il est en train d'interpeller les églises. Et parmi ces constatations, le Seigneur dit aux églises, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. » Les églises fonctionnaient, ça tournait. Mais Jésus n'était plus au milieu des églises. Il n'y avait plus de relation, plus de contact. Les églises avaient perdu leur premier amour, leur passion pour Jésus, et le Saint-Esprit ne pouvait plus agir. Les églises fonctionnaient, mais elles étaient en train de mourir. Alors on peut fonctionner comme ça un certain temps, mais nous avons besoin d'un contact vivant, une relation vivante avec le ciel, avec le Seigneur, pour vivre une vie intentionnelle. Alors, ma question ce matin, c'est qu'est-ce que je suis en train d'accomplir en ce moment? Que sommes-nous, même en tant qu'Église, en train d'accomplir? Que sommes-nous en train de construire? Parce que toute l'Église est impliquée dans une vie intentionnelle de la part du Seigneur. Participe-t-elle à cette Église au ministère? Est-ce que nous, femmes, jeunes, moi, jeunes, nous sommes impliqués? Sommes-nous en progrès? Et si le Seigneur passait ce matin avec son bulletin, qu'est-ce qu'il y mettrait comme remarque? Bon travail. Bien. Assez bien. Très bien. Hein? Qu'est-ce qui, je ne sais pas. Peut mieux faire. Et les élèves ont souvent cette remarque. Peut mieux faire. Moi, je crois qu'on peut toujours mieux faire. Et rien n'est trop grand et trop beau pour le Seigneur. Quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, il me semble que toute notre vie devrait lui être consacrée à un engagement sans faille. Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Je disais ce matin, ma plus grande joie, c'est lorsqu'un voisin vient voir en disant, mais je crois que le Seigneur est avec toi, je crois que Dieu est avec toi. Et puis moi, je lui renvoie la balle en disant, mais je crois qu'il peut être aussi avec toi, il faut aussi être avec toi, le Seigneur est avec toi. Nous n'imaginons pas ce que notre entourage perçoit de notre témoignage. Je crois qu'on a autour de nous des hommes, des femmes, un monde en recherche. Ils ne savent pas qu'ils sont à la recherche de Dieu, ils ne le savent pas, mais lorsqu'ils voient des chrétiens, des chrétiennes, des disciples de Jésus vivre leur foi tout simplement et tout naturellement, ils sont attirés. Ils ont envie. Je voudrais ce que tu as. Bon, la plupart du temps, ils ne veulent pas payer le prix, ça c'est autre chose, mais il faut se convertir pour avoir ce que nous avons. Frères et sœurs, prenons au sérieux notre croissance spirituelle. Et peut-être que c'est une révélation pour quelqu'un ce matin. Eh oui, je suis responsable de ma propre croissance spirituelle. Je suis responsable de mes progrès. Parce que Dieu ne fera pas sans moi. Il veut que je participe pleinement ma transformation. Vivre de manière intentionnelle, deuxièmement, ça peut être un combat. Un combat contre l'adversaire, un combat contre l'adversité, un combat contre nos mauvaises habitudes. Comme le fait remarquer un des leaders, un expert en leadership, c'est John Maxwell, il dira, oui, nous voulons aller vers le sommet, vers le plus beau et vers les valeurs de l'Évangile. Mais en même temps, nous voulons grandir et en même temps, nous avons d'un autre côté des habitudes qui nous tirent vers le bas. Tout l'art consiste à se mettre à la disposition du Seigneur, à réfléchir, à voir ce qui ne va pas et à travailler sur les bonnes habitudes. Vivre de manière intentionnelle, c'est se battre aussi contre le complexe, se battre contre nos peurs, peut-être même contre nous-mêmes, parce que quelquefois, nous sommes notre pire ennemi. Martin Luther le disait, nous allons entrer là dans les 500 ans de la réforme, parce que l'année prochaine, nous sommes déjà entrés ici sur Strasbourg avec différentes manifestations. On pense à Luther et à tout ce qu'il a œuvré dans la réforme, mais un de ses points fort qu'il avait relevé, c'est qu'il était lui-même parfois son pire ennemi. Est-ce que c'est vrai pour moi? Certainement. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il donne des directives pour qu'il puisse vivre de manière intentionnelle, combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 4:4, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. 4:12, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. 4:14, ne néglige pas ton ministère. 4:15, prends ces choses à cœur, consacre-toi tout entier à elles. Autrement dit, s'il parlait aujourd'hui, il dit, travaille, vise, conduis-toi, comporte-toi d'une manière intentionnelle. soit déterminé, choisi, décide, prévoit. Jamais nous ne pourrons écarter de notre vie des notions comme l'effort, le sacrifice, notion de combat. Vous imaginez peut-être un étudiant qui réussit brillamment dans son cursus et vous lui posez la question, mais comment tu en es arrivé ? Non, ben, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Ou un chef d'entreprise qui réussit, vous lui posez la question, mais comment tu y es arrivé ? Qu'as-tu fait ? Comment ça s'est passé ? Ben, je ne sais pas, c'est venu tout seul, comme ça, les clients sont arrivés, un jour... Non, c'est qu'il y a eu du travail, il y a eu de l'effort, il y a eu de la réflexion, il y a eu tout un travail. Et parfois, c'est un combat. En anglais, on dit « no pain, no gain ». En alsacien ou en allemand, « ohne Mühe, keine Brühe ». Sans effort, je vais traduire, hein, ne vous inquiétez pas, sans effort, il n'y a pas de résultat. Vous voyez ? Et nos anciens, ils en savaient quelque chose. Et c'est la vérité. C'est pareil sur le plan spirituel. Et pourquoi est-ce qu'il faut combattre la paresse ? Avancer dans la vie, il faut combattre la paresse. Ça, c'est pas simple, mais il faut en parler. La paresse, c'est le refus de faire des efforts. Moi, je bénis Dieu pour notre Église où l'on fait des efforts. Et évidemment, chacun est libre et volontaire, et notre service se fait avec joie. Si vous aviez vu hier après-midi ce que j'ai vu, ici, dans nos sous-sols, des équipes et des équipes qui ont confectionné des prédonnés, des petits gâteaux de Noël. Et l'objectif, c'est d'en faire 3000 sachets pour bénir la ville de Strasbourg en les donnant, les distribuant gratuitement avec un petit mot. Ils pourront chercher sur Internet. Il y a des références. C'est merveilleux. Si vous aviez vu l'ambiance, la joie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je bénis Dieu pour l'épi, pour cela, pour ce bon climat, cette bonne atmosphère, jeune, moins jeune, côte à côte, main dans la main, en train de bénir notre vie. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est l'intention de Dieu pour l'épi. C'est que nous bénissions notre ville et notre région. Donc la paresse, c'est le refus de faire des efforts. Un écrivain français qui s'appelle Jules Renard a écrit ceci, « La paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant d'être fatigué. » C'est bien dit, hein? Alors, il y a plusieurs formes de paresse. La paresse qui peut être le refus de l'effort physique. Et le livre des Proverbes a énormément de choses à dire sur cette notion de paresse. Je vous en cite juste un. « Le paresseux met la main dans le plat, mais n'a pas le courage de la ramener. » C'est terrible, ça. Terrible. Je parlais avec un grand-père l'autre jour et il me disait, c'est un ancien marin qui a fait la marine et qui était sur la Jeanne d'Arc. C'est un bateau mythique, la Jeanne d'Arc. Il me disait, en parlant de ces choses, il me disait, vivre de manière intentionnelle, c'est savoir ce qu'on veut et faire ce qu'il faut pour y arriver. Autrement dit, se donner les moyens. Moi, je m'oblige, par exemple, à fréquenter des hommes de Dieu, à fréquenter des pastorales, à aller dans des conférences, pour que ma foi, mon leadership soit aiguisé avec d'autres hommes pour que je puisse grandir. J'ai envie de grandir et je me donne les moyens. Et je veux profiter de l'expérience de mes aînés, de ceux qui ont travaillé avant moi dans leur domaine de compétences. Il y a aussi la paresse mentale. Par exemple, la procrastination. Procrastiner, ça veut dire toujours remettre au lendemain et ne jamais faire les choses le jour même. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire le surlendemain? Morgen, nur nicht heute sagen alle faule Leute. C'est-à-dire, en allemand, c'est un proverbe aussi qui est très réputé. Il dit demain, surtout pas aujourd'hui, disent tous les paresseux. Jean-Jacques Goldman a une chanson que vous connaissez peut-être, dans laquelle il dit « Je commence demain ». Et moi, je crois que le demain commence aujourd'hui. Demain commence aujourd'hui. Vous savez que les statistiques montrent que si vous ne faites rien avec les messages qui vous sont donnés, dans les 3 jours qui suivent le message, vous ne changerez rien à votre façon de vivre. C'est les stats. Si dans les 3 jours, je ne fais pas quelque chose à partir de ce que j'entends, que ce soit les CD, que ce soit les messages, quelque chose qui m'interpelle, qui vient me chercher, si je ne fais rien dans les 3 jours, ce sera un message de plus, un culte de plus, mais cela n'aura aucun impact sur ma vie en termes de changement, de croissance et de spirituel. Et je vous encourage vraiment à faire quelque chose avec les messages que vous recevez, que vous entendez. Ecclésiaste chapitre 10, verset 18 nous dit « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre et quand on a les bras ballants, il pleut dans la maison. » Moi, j'aime bien l'hébreu parce que c'est un langage qui est très imagé. Comme pour les Africains, ils aiment bien, quand les Africains vous parlent, ils parlent avec des images. J'aime bien cette langue-là. Quand les bras sont ballants, il pleut dans la maison. Alors, ayant dit tout cela, évidemment, il faut aussi mettre des nuances parce que peut-être ce matin, parmi nous, vous êtes peut-être un peu fatigué, vous êtes peut-être découragé. Alors, je ne suis pas là, et on n'est pas dans le jugement et on n'est pas dans la condamnation, on est bien d'accord. Et peut-être que vous avez besoin d'être un peu encouragé, peut-être avez-vous besoin d'un peu de sommeil, peut-être avez-vous... Voilà. Donc, tout ça, je crois que c'est une question d'équilibre et de mesure. Mais d'une manière générale, si on veut donner un sens et un cap et une direction à notre vie, il faut faire ce qu'il faut. D'accord? Combattre la paresse intellectuelle. Oui, Dieu nous a donné un cerveau. C'est pas pour remplir la cavité creuse là, de notre crâne. C'est pour qu'on s'en serve. Et puis, la paresse, finalement, peut se présenter sous forme de refus. Par exemple, refuser d'affronter de nouvelles situations. Ça peut être de la paresse. Refuser de réfléchir. Refuser de faire un bilan. Ça peut être de la paresse. Et même, j'allais dire, certaines personnes refuse de se convertir par paresse. Au fond, parce qu'elle refuse de réfléchir, de peur qu'en réfléchissant, elle soit amenée à se remettre en question. Vous voyez? Ça peut être de la paresse. Refuser de régler des problèmes que je dois régler. Refuser d'assumer ma part de responsabilité dans ma croissance personnelle ou dans ma croissance collective. Je crois que chacun et chacune, nous avons notre part. Quand je prie au lieu d'agir, alors que je sais ce qu'il faudrait que je fasse, ça peut être de la paresse. Il fut un temps dans ma vie et dans mon parcours pastoral, je disais souvent au Seigneur, il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Je voyais un besoin parmi les enfants, le besoin d'organiser des colonies dans notre région. Il faudrait que quelqu'un se lance dans les colos. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'attends? Le Seigneur, il faudrait que quelqu'un fasse. Et puis, on a eu besoin des ados. Avec mon épouse, pendant 25 ans, on a fait des camps d'ados. Parce que je dis, le Seigneur, il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose avec ces ados. Le Seigneur dit, qu'est-ce que t'attends? Pareil pour les temps de jeûne et prière. Vous pressentez pour notre pays, en France, des temps nécessaires dans le jeûne et dans la prière. Le Seigneur, il faudrait vraiment que quelqu'un organise. Et puis Dieu dit, mais qu'est-ce que t'attends? La prière, ce n'est pas seulement dire, Seigneur, voilà, tu vois un peu les besoins, mais c'est aussi devenir, à un moment donné, la réponse à ses propres prières. Oh. Oui. Vous avez remarqué combien facilement on envoie le Seigneur au travail. Seigneur fait ceci, Seigneur fait cela, Seigneur fait... Puis Dieu dit, et toi, t'es où dans tout ça? Mène une vie intentionnelle. Une vie intentionnelle. Dieu ne fera jamais mon travail à ma place. Et vivre de manière intentionnelle, ça peut donc être un combat. Puis l'Église de Jésus-Christ, finalement, c'est aussi une armée de vaillants soldats, non pas destinés à tuer qui que ce soit, pas du tout, mais une armée destinée à retrousser ses manches pour bénir, pour secourir, pour aider des hommes et des femmes et pour aller à la rencontre de ceux qui sont en recherche et pour leur permettre de rencontrer Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons ces jours-ci. Une armée qui se bat contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre la haine, contre la violence, contre le racisme. J'ai trouvé ici la charte du soldat, et je ne résiste pas à l'envie de vous la lire. La charte du soldat français. Vous êtes prêts? On est une armée hein, ce matin, on est l'armée de Jésus-Christ. Une armée pleine d'amour et d'un esprit de sacrifice pour aller à la rencontre de tous ceux qui ont besoin du Seigneur. Alors écoutez bien, le soldat. Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué en tout temps et en tout lieu. Il accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire, au péril de sa vie. C'est fort, hein? Ça, c'est vivre une vie de manière intentionnelle. Il obéit aux ordres dans le respect des lois, des coutumes, de la guerre et des conventions internationales. Il fait preuve d'initiative et s'adapte en toutes circonstances. Soldat professionnel, il entretient ses capacités intellectuelles et physiques et développe sa compétence et sa force morale. On pourrait ajouter un verset biblique à chacune de ces déclarations. Membre d'une équipe solidaire et fraternelle, il agit avec honneur, franchise et loyauté. C'est bien dit. Attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés, il œuvre pour la cohésion et le dynamisme de son unité. Il est ouvert sur le monde et la société et en respecte les différences. Il s'exprime avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique et religieuse. Fier de son engagement, il est toujours et partout un ambassadeur de son régiment et de l'armée française. Ça vous va comme programme? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. En y sent à la fois de la rigueur, de la discipline, de la clarté, un but précis, un sens précis, une direction. Pour moi, c'est l'image d'une vie qui est menée d'une manière intentionnelle. Et puis, vivre de manière intentionnelle, c'est une pratique quotidienne. C'est notre quotidien. Imaginez que vous vous leviez chaque matin en disant « Me voici, Seigneur. » C'est une nouvelle journée qui commence. Elle est nouvelle pour moi, pour toi, il n'y a rien de nouveau parce que tu sais déjà. Mais tu as prévu pour moi. Je voudrais vraiment entrer dans ton attention. Je voudrais vraiment me mettre à ta disposition, être disponible pour ce qui se passera aujourd'hui et être un témoin pour toi, être une lumière. C'est ce que nous sommes appelés à être, celle de la terre, lumière du monde. Oui, Seigneur, je voudrais cela. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aussi se regarder soi-même sur au moins trois points. Ce sont les trois C. On utilise ces trois C quand on parle de leader, de leadership, des responsables. Ils doivent travailler sur leur caractère, sur leurs compétences, mais aussi sur leur connexion. Les trois C. Donc, compétences, on comprend ça, les connexions, c'est-à-dire tout ce qui est la communication avec les autres, le relationnel. Mais le plus important, certainement, c'est le domaine du caractère. Les gens vont oublier ce que vous avez dit. Ils vont oublier ce que vous avez fait. Mais ils n'oublieront jamais qui vous avez été. peut dire à chaque enterrement, cela par exemple, c'est vrai, mais n'oublierons jamais qui vous avez été. Le mot caractère, c'est le mot karatagne en grec, veut dire empreinte, marque, trace. Et Dieu est intéressé par mettre en nous l'empreinte de Christ. Et le but de la croissance chrétienne, une croissance spirituelle, c'est de nous rendre semblables à Jésus. C'est ça le but du Seigneur pour nous. Dieu s'intéresse à ce qui est gravé en nous. Il veut voir les marques de Christ. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « Vous êtes une lettre de Christ, gravée non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. » Quelles sont les dernières empreintes, les dernières traces, les dernières marques que le Seigneur a pu mettre dans ma vie? Marque d'amour, patience, humilité, persévérance, sainteté, obéissance, soumission, la joie, l'esprit de service, quelles sont les dernières marques? Nos enfants nous ont offert un voyage mémorable à Evelyne et moi, mon épouse et moi. Ils y ont travaillé pendant 10 mois sans rien nous dire. Depuis des mois, ils réfléchissent. Ils prient pour ce voyage, pour offrir à leurs parents un cadeau pour leurs 40 ans de mariage. Je vous dis que c'était magnifique. Magnifique. Ils nous ont offert une grosse enveloppe avec plein de cartes. Et c'était très, très émouvant, je peux vous le dire, à lire dans l'avion en allant de Mulhouse jusqu'en Israël. C'était très émouvant. Et puis, nous attendait en Israël un guide chrétien qui avait fait ses études à l'Université de Jérusalem. Passionné d'histoire, passionné d'archéologie, passionné de la Bible. Et son désir, c'était de mettre en cohérence ce qu'il y avait en Israël avec la Bible, avec l'histoire, et de nous montrer au fond toute l'intention. Et quand vous êtes sur place, je vous assure, vous découvrez, c'est la Bible revisitée en quelque sorte, vous découvrez l'intention de Dieu pour une nation, pour un peuple. C'est extraordinaire. Vous êtes devant des pierres millénaires. Ça vous touche. Après, vous prenez votre Bible et vous ne la lisez plus de la même manière. On est allé à Golgotha. Et là, vous savez, il y a des choses, ça vous remue. On est allé dans le jardin de la tombe. Et on est entré, Evelyne et moi, dans la tombe. On a déposé Jésus. Ça vous fait quelque chose. Elle est vide. Elle est vide. Amen. On était à Qumran, où on a découvert le rouleau, entre autres, le rouleau du prophète Ésaïe, intact, à part deux, trois petits morceaux, mais intact, impressionnant. Dieu avait conservé sa parole, et figurez-vous que dans le monde entier, on a retrouvé 30 000 manuscrits de la parole de Dieu. C'est unique. Notre Dieu est unique. Ce qu'il fait est unique. C'est pensé, c'est réfléchi. Il y a une intention divine. C'est extraordinaire. On voit ces murailles à Jérusalem. C'est impressionnant. Et quand on se dit que Jésus a été dans ces différents lieux, on est à Gethsémani. Eh bien, cette dernière marque que le Seigneur met dans ma vie, c'est une petite touche, une petite dose d'humilité. Parce que quand on vit cela, on est tout petit. On est tout petit. Vous êtes devant des murailles et devant des pierres millénaires, vous dites « Wow !» La petite ville de Jébus, David, qui a remporté une victoire à Jébus il y a 3 mois. Aujourd'hui, Jérusalem. Et vous vous dites que le dénouement de l'histoire va se jouer là, sur cette terre, dans la vallée de Gisraël. C'est une vallée qui fait 60 km de long sur 26, un peu la plaine d'Alsace, de Strasbourg jusqu'à Colmar. Il y aura des millions de personnes. Et les choses se préparent. Il y a une intention, il y a une supervision de Dieu sur toute l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire. Alors vous êtes devant tout cela, et vous êtes tout. Et avec vous, frères et sœurs, j'aimerais entrer dans l'attention de Dieu. J'aimerais grandir. J'aimerais être un bon ambassadeur de Christ. Et que l'Église aussi soit. Cette semaine, j'ai reçu un ambassadeur ici. Le cabinet de l'ambassade m'a envoyé un petit mail pour dire que un ambassadeur voudrait prendre le café avec moi. Visite de courtoisie. On a parlé de Jésus. Extraordinaire ce que Dieu prépare et comment il conduit les choses. Moi, je vais être disponible. Il y a des personnes dans notre société qui sont difficilement atteignables. Si vous parlez avec notre frère Stéphane Davelieu, il va vous raconter comment il a témoigné à des artistes, des comédiens chrétiens. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui sait vers qui le Seigneur pourra encore nous envoyer? Si nous disons, me voici Seigneur, voilà que ton intention bien, soit aussi la mienne, que ta volonté soit la mienne, que la mienne soit la tienne, enfin voilà, hein, on se rejoint Seigneur et on ira loin. Quel genre de disciple veux-tu être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si le Seigneur n'est pas revenu? Moi, je peux te dire quel genre de disciple tu seras. Tu seras dans 10 ans ce que tu es aujourd'hui, plus les moments passés avec Dieu, plus tous les livres que tu auras pu lire, les messages que tu auras entendus, qui t'auront marqué et avec lesquels tu auras fait quelque chose, plus les gens que tu auras fréquentés, plus les formations auxquelles tu auras participé, plus les temps de jeûne et prière, plus tous les sacrifices, plus toutes les bonnes décisions que tu auras prises, et plus les voyages que tu auras pu faire. Parce que ça aussi, tout ça peut contribuer à élargir notre perception de ce que Dieu est en train de faire, de son intention. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Te remercions, Seigneur, pour tes bonnes intentions à notre égard, tes bonnes intentions pour l'Église, tes bonnes intentions pour le monde entier. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux et de plus cher. À notre tour, nous sommes devant toi ce matin pour te dire aussi, nous voici, me voici, Seigneur, me voici pour accomplir ta volonté. Parle, conduis, aide-nous, Seigneur, discerner ta pensée alors que nous nous engageons avec toi pour vivre d'une manière intentionnelle. Bénis ton Église, bénis nos frères et sœurs, bénis ton peuple ici sur Strasbourg et tout particulièrement pendant cette période de Noël, alors que nous serons dans les rues. Bénis, Seigneur, ces contacts, ces moments, ces entretiens. Oh, fais rayonner ta lumière, ta parole, s'il te plaît, au travers de ton Église. Aide-nous, aide-moi à vivre d'une manière intentionnelle pour ta gloire et pour le salut du plus grand nombre. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Que Dieu vous bénisse.